Appendice B. Les princes Sindarin, des elfes sylvains. Dans la note liminaire au compte des années du deuxième âge, appendice B du Seigneur des Anneaux, on lit qu'avant l'érection de Barad-dûr, de nombreux Sindar passèrent à l'est et quelques-uns fondèrent des royaumes dans les lointaines forêts, royaumes surtout peuplés d'elfes sylvains. Le roi Thranduil, établi dans le nord de Verbois-le-Grand, était de ceux-là. On trouve des détails supplémentaires sur l'histoire de ces princes Sindarin dans les derniers écrits philologiques de mon père. Ainsi, nous apprenons dans l'un de ses essais que le royaume de Thranduil s'étendait dans les bois qui environnaient la montagne solitaire et qui couvraient les rives occidentales du long lac avant la venue des nains en exil venus de la Moria et l'irruption du dragon. Les elfes de ce royaume avaient émigré du sud où ils étaient voisins des elfes de la Lorienne, leurs parents. Mais ils avaient séjourné à Verbois-le-Grand, à l'est de l'Anduin. Au deuxième âge, leur roi, Orofer, le père de Thranduil, père de Légolas, s'était retiré plus au nord, au-delà des champs de Flambe. Et cela, afin de se soustraire à la puissance et aux empiétements des nains de la Moria, devenus si nombreux que jamais dans l'histoire on ne devait voir cité de nains plus populeuses. Au surplus, Orofer goûtait peu les intrusions de Celeborn et de Galadriel en Lorienne. Mais à l'époque, rien ne menaçait encore la région située entre le Verbois et les montagnes, et son peuple entretenait des rapports constants avec ceux de leur parenté qui vivaient de l'autre côté du fleuve, et il en fut ainsi jusqu'à la guerre de la Dernière Alliance. Malgré le désir des elfes sylvains d'être mêlés le moins possible aux affaires des Noldor et des Sindar, ou de tout autre peuple quel qu'il fût, nain, homme ou orque, Orofer eut la sagesse de présager qu'il n'y aurait point de paix possible tant que Sauron ne serait pas vaincu. C'est pourquoi il leva une grande armée composée de son propre peuple, désormais considérable, et se joignant à l'armée moins importante du roi Malgalad de Lorienne, il mena au combat les troupes des elfes sylvains. Et ils étaient gens de courage et d'endurance, mais bien mal équipés en armes et en armure au regard des Eldar de l'Ouest. En outre, de tempérament indépendant, ils refusaient de reconnaître l'autorité suprême de Gil-galad. Et pour lors, ils subirent des pertes bien plus lourdes que nécessaires, même dans cette guerre épouvantable. Malgalad et plus de la moitié de ses troupes tombèrent dans la grande bataille de Dagorlad, coupés du gros de l'armée et chassés dans les marais morts. Orofer fut tué dans la première charge contre le Mordor, comme il se ruait sur l'ennemi à la tête de ses soldats les plus aguerris, et ce, avant que Gil-galad eût donné l'ordre d'attaquer. Son fils Thranduil survécut, mais lorsque la guerre prit fin et que Sauron, à ce qu'on crut, fut tué, il ramena à ses foyers un tiers à peine de l'armée qui était partie au combat. Malgalad de Lorienne ne figure nulle part ailleurs, et il n'est pas donné ici pour le père d'Amroth. Quant à Amdir, père d'Amroth, il est, lui, cité par deux fois comme ayant trouvé la mort à la bataille de Dagorlad. Et on peut penser dès lors que Malgalad et Amdir ne font qu'un. Mais lequel de ces deux noms est venu remplacer l'autre, je ne saurais dire. Le récit continue. S'ensuivit une longue période de paix, durant laquelle la population des elfes sylvains s'accrut à nouveau. Mais ils étaient inquiets et anxieux, pressentant que le monde allait changer avec le troisième âge. Et le peuple des hommes se faisait toujours plus nombreux et plus puissant. L'empire des rois Numénoréens du Gondor atteignait, vers le nord, les confins de la Lorienne et du Verbois. Et les hommes libres du nord, ainsi dénommés par les elfes, parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'autorité des Dunedain et pour la plupart, n'étaient pas tombés sous la domination de Sauron ou de ses serviteurs, gagnaient quant à eux en direction du sud, surtout à l'est du Verbois, mais certains d'entre eux étaient venus s'établir à l'orée de la forêt et dans les prairies du Val de l'Anduin. Plus inquiétantes étaient les rumeurs en provenance des régions de l'est proprement dit. Les hommes sauvages s'agitaient. Ils avaient été serviteurs et adorateurs de Sauron, et voilà qu'ils se trouvaient libérés de sa tyrannie, mais non point de la malfaisance et des ténèbres qu'il avait insinuées en leur cœur. De terribles guerres faisaient rage parmi eux, et certains cherchèrent à se retirer vers l'ouest, l'esprit plein de haine, et considérant quiconque vivant à l'ouest comme un ennemi bon à tuer et à piller. Et cependant plus épaisse encore était l'ombre dans le cœur de Thranduil. Il avait contemplé la noire horreur du Mordor, et il ne la pouvait oublier. Et dès qu'il portait ses regards vers le sud, ce souvenir voilait à ses yeux la lumière du soleil. Et tout en sachant ce pays dévasté et déserté, et placé sous la garde vigilante des rois des hommes, il n'en gardait pas moins l'effroi au cœur, pressentant que le mal n'était pas vaincu à jamais. Il finirait par renaître. Dans un autre passage écrit à la même époque que ce qui précède, il est dit qu'une fois 1000 ans de ce troisième âge passé, l'ombre gagna Verbois-le-Grand, et les elfes sylvains, gouvernés par Thranduil, battirent en retraite devant elle, qui allait toujours progressant vers le nord, tant et si bien que Thranduil partit établir son royaume au nord-est de la forêt, et là, il fit creuser une forteresse souterraine aux vastes salles excavées. Orofer était d'origine Sindarin, et ce faisant, Thranduil, son fils, suivait très certainement l'exemple qu'avait donné autrefois le roi Thingol du Doriath. Encore que ces salles souterraines n'auraient guère pu soutenir la comparaison avec celle de Menegroth. Car Thranduil n'avait ni le savoir de Thingol, ni ses ressources, ni l'aide des nains. Et au regard des elfes du Doriath, son peuple sylvain était plus simple et rustique. Orofer était venu parmi eux, accompagné d'une poignée seulement de Sindar, et ceux-ci s'étaient tôt confondus avec les elfes sylvains, adoptant leur parler et prenant des noms de même forme et style. Et cela, ils le firent délibérément, car, comme d'autres voyageurs au destin similaire, oubliés par les légendes ou tout juste nommés, ils étaient arrivés du Doriath après sa ruine, et ils ne souhaitaient pas quitter la terre du milieu, ni se retrouver mêlés aux autres Sindar du Beleriand, lesquels vivaient sous l'autorité des exilés Noldorin, peu aimés des gens du Doriath. Et ils voulaient en vérité se mêler au peuple sylvain et retrouver, disait-il, la simplicité de vie qui avait été celle des elfes avant qu'elle ne fût troublée par l'invitation des Valar. Nulle part, à ma connaissance, n'est résolue la conception de l'adoption du parler sylvain comme décrite ici par les souverains Sindarin des elfes sylvains de grand-peur, face à l'affirmation selon laquelle l'elfique sylvain n'était plus parlé dans le royaume de Thranduil à la fin du troisième âge. Voir plus loin, le désastre des champs de flambes.